Radio Classique, l'invité de l'économie.
Avec Covéa Finance. Covéa Finance, votre expert en gestion financière dans un monde en pleine mutation.
Il est 7h14 sur Radio Classique. Avec ce nouveau gouvernement Castex, va-t-il y avoir un tournant, un virage positif pour le dialogue social? On en parle ce matin avec le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Verrier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le dialogue social qui est érigé en priorité, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, par Elisabeth Borne, qui est donc votre nouvelle interlocutrice principale, c'est elle, la nouvelle ministre du Travail. Ce nouveau gouvernement Castex, il y a un sondage, la Elab, qui circule ce matin, on voit 47% des Français n'ont pas d'avis sur ce nouveau gouvernement, sur le nouveau Premier ministre. J'aimerais bien avoir votre sentiment à vous, Yves Verrier.
Moi, je juge aux actes. Donc, voilà, on nous dit que le visage est plus social. Jean Castex se présente comme un gaulliste social. Tout un chacun, je l'entends, des ministres qui viennent d'être nommés ou reconduits ou à un poste différent, comme Madame Borne, qui était à l'écologie, développement durable et qui vient au travail, porte beaucoup les termes du dialogue social, des partenaires sociaux. On va avoir aujourd'hui, j'espère, que la négociation, par exemple, dans la santé, ce qu'on appelle le Ségur de la santé, va se conclure positivement.
On a vu Castex passer une tête lors de la réunion hier. Il a annoncé une rallonge d'1,5 milliard, ce qui fait une enveloppe de 7,5 milliards d'euros, soit une augmentation de 156 euros pour les soignants. C'est moitié moins quand même que ce qu'ils espéraient. Est-ce que ça suffira, vous dites, Yves Verrier, ou c'est un bon compromis, à savoir que personne n'est totalement satisfait?
Le compte n'y était pas cette nuit, puisque la négociation s'est arrêtée dans la nuit, vers 1h du matin. Elle doit reprendre dans la journée, et de ce que je comprends, moi je suis en contact évidemment avec
Vous suivez le dossier de très près,
Oui, je les ai eus cette nuit. Le compte n'y est encore pas, donc il faut que le gouvernement comprenne une chose. Il y a une attente forte, bien sûr, des personnels de santé. Alors, c'est vrai que ça fait une enveloppe importante en apparence, mais il ne faut pas oublier que c'est plus d'un million de salariés, de personnel, dans la santé, hôpital, EHPAD. Évidemment, l'enveloppe est importante, mais voilà, il faut répondre à cette attente. Ils se sont mobilisés sans compter, je le rappelle, pendant la crise sanitaire, sans protection au départ pour beaucoup d'entre eux, notamment dans les EHPAD, donc au risque de leur propre santé. Donc l'attente est forte, mais pas seulement des personnels de la santé. Je crois que le gouvernement doit bien entendre que l'attente est celle de la population, et la population, dans son ensemble, qui applaudissait, sera, je ne sais pas si elle sera reconnaissante, mais considérera juste que la réponse soit à la hauteur de ce qui est attendu. Et puis moi, j'ai écouté aussi le professeur Salomon, qui nous dit, on voit bien qu'en Espagne, il y a reconfinement, qu'il y a un risque de retour de l'épidémie. Il faut qu'on se prépare à cette éventualité. J'espère que ce ne sera pas le cas, bien évidemment. Mais s'y préparer, c'est donner confiance, faire la démonstration à toutes celles et tous ceux dans les hôpitaux, les EHPAD, le médico-social. Il faudra penser aux services à domicile. Tout à l'heure, j'ai une conférence de presse, on présente un programme de revendication d'action pour les assistantes maternelles, par exemple, qui ont été elles aussi mobilisées fortement. Donc il faut se préparer à ce risque et il faut mettre le paquet là-dessus. Donc voilà, je pense que le gouvernement doit comprendre. Donc j'espère que le dialogue social va se traduire concrètement par une réponse qui soit à la hauteur de ce qui est attendu.
Alors, on va parler dans un instant de la réforme des retraites, on parlera aussi de celle de l'assurance chômage, mais tout d'abord, je vous ai entendu dire hier à Bruno Le Maire, qui est donc ministre seul aujourd'hui aux manettes de Bercy, il gère l'économie, il gère les finances, donc c'est-à-dire les impôts, mais aussi la relance, vous lui dites sur la relance, allez-y franco, monsieur le ministre, sur l'emploi, sur les compétences, sur les salaires. Est-ce qu'il faut aussi, pensez-vous, est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on baisse les impôts des entreprises, les impôts de production? Il l'a dit hier lors de la passation de pouvoir avec Gérald Darmanin que c'était sa priorité des priorités. La logique de Bruno Le Maire, c'est de dire il y aura pas de relance, il y aura pas de réindustrialisation du pays si on ne baisse pas ces impôts de production qui nous mettent en situation de handicap concurrentiel par rapport, citons les Allemands, Yves Verrier.
Ça pose, vous venez de le dire à l'instant, ça pose un vrai problème qui est celui de la construction européenne. On n'a toujours pas réussi à harmoniser les dispositifs fiscaux, sociaux. On est toujours dans une Europe qui n'est pas une Europe solidaire, qui est une Europe de la concurrence, du marché libre ou de la déréglementation, là où il faudrait qu'on mette à égalité les conditions de concurrence sur le plan fiscal, sur le plan social.
Vous pensez que ce serait aux autres, nos concurrents, d'augmenter leurs impôts de production plutôt qu'à nous de les baisser, alors?
J'ai tendance à penser que, effectivement, les impôts, il ne faut jamais oublier, parce que quand on dit on va baisser les impôts des entreprises, qu'est-ce qu'on fait? On améliore le salaire des entreprises, entre guillemets. Quand on parle des salariés, on nous demande plutôt souvent de se serrer la ceinture, de faire des efforts sur les salaires en contrepartie de l'emploi. Donc, il faut renverser la donne. Je pense que le Premier ministre a eu une formule en disant il faut d'abord produire pour redistribuer. C'était déjà à peu près la même formule que son prédécesseur avait utilisée. Et moi, j'avais contesté cette approche en disant non, il faut produire pour redistribuer. La nuance paraît peut-être faible, mais la nuance, elle veut dire que on produit pour répondre aux besoins de la population. On produit pour répondre à un objectif de justice et de progrès social. On peut y ajouter aujourd'hui les questions environnementales. Mais on ne produit pas en espérant que la main invisible du marché va résoudre les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. Ça fait des dizaines d'années que ça ne marche pas. Au contraire. Donc, plutôt que simplement de dire on va baisser les impôts, il faut travailler au niveau européen à harmoniser les conditions fiscales, les conditions sociales. Que l'Europe soit au moins dans l'espace mondial ce périmètre sur lequel on fait en sorte que le social l'emporte sur les contraintes économiques ou financières. Par rapport à Monsieur Bruno Le Maire, aujourd'hui Airbus manifeste. Et ce que j'ai dit à Bruno Le Maire, allez-y Franco, interdisez les licenciements là où il y a aide publique. Et c'est exactement ce que demandent les syndicats qui vont manifester aujourd'hui à Airbus. La charge est lourde, 5 000 suppressions d'emplois annoncées. Bruno Le Maire a dit, ça fait beaucoup, il faut réduire l'ampleur des suppressions d'emplois. Donc je lui dis, allez-y, carrément plus franco, il faut empêcher les suppressions d'emplois là où il y a effet d'aubaine, là où il y a aide publique.
Vous dites que pour Airbus, il y a un effet d'aubaine, alors qu'on connaît quand même l'ampleur de la crise du secteur aéronautique, l'effondrement des commandes, les compagnies aériennes qui sont à genoux. Vous dites que sur Airbus, il y a un effet d'aubaine de la direction?
Il y a deux dimensions dans la situation d'Airbus. Il y a effectivement les effets de la crise sanitaire qui sont objectifs, incontestables. Moi, je suis aussi inquiet. FO est très mobilisé à Air France, dans le secteur aérien. On voit bien que les avions ne revolent pas. On va avoir une réduction forte, très forte, du trafic pendant encore de nombreux mois, semble-t-il. Donc évidemment, pendant ce temps-là, les compagnies n'achètent pas d'avions et Airbus n'en fabrique plus. Donc il y a une difficulté conjoncturelle, objective, massive, qui est due à la crise sanitaire. Mais les syndicats FO et le syndicat majoritaire à Airbus considèrent qu'il y a manifestement aussi une restructuration qui a pour objectif de faire des économies, y compris sur l'emploi dans ce contexte. Donc, il faudrait qu'on mette tout sur la table, qu'on sépare bien les choses. Et c'est là que je demande au ministre de l'économie de regarder précisément ce qui se passe et effectivement d'y aller franco pour éviter les licenciements, empêcher les licenciements, les départs contraints, comme on dit, et empêcher des suppressions d'emplois qui ne seraient pas liées à une situation conjoncturelle.
Oui. Je reste à Bercy, Yves Verrier, vous l'avez remarqué, il y a quand même eu un débauchage dans les rangs syndicaux, c'est Alain Griset, le patron de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, donc les petites entreprises. Il prend le portefeuille des PME. Comment vous percevez-vous cette entrée d'un de vos collègues, partenaires sociaux au ministère, Yves Verrier?
Alors, il représentait effectivement les employeurs des très petites entreprises jusqu'à maintenant. Et on était souvent autour des mêmes tables lorsqu'on rencontrait les pouvoirs publics, par exemple. Et évidemment, il portait les attentes, les revendications de ses homologues, de ses collègues employeurs des très petites entreprises. Et il espérait être entendu. Alors maintenant, je le dis, il va être attendu sur la politique qu'il va mettre en œuvre. Et les petites entreprises, c'est un enjeu majeur parce que vous citiez ce matin un article du Monde qui évalue à 20 000 suppressions d'emplois le total des annonces qui ont été faites ces temps derniers.
Et c'était avant Airbus,
TU, etc.
Oui, bien sûr.
À cela s'ajoutaient les plus petits plans de suppression d'emplois qui sont annoncés, qui font à peu près 10 000. Mais nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup, beaucoup de suppression d'emplois, de licenciements, de rupture de contrats de travail dans les très petites entreprises. Ça, c'est la partie invisible, mais ça fait beaucoup de monde. Ça ne fera pas la une, mais il y a de quoi s'inquiéter. Et là, il y a tout l'enjeu de l'assurance chômage. Donc, de Mme Borne, j'attends une première chose, c'est qu'on abandonne définitivement, un peu comme pour le dossier des retraites, on met au rebut réforme de l'assurance chômage de l'année dernière, on revient aux dispositions de la convention qui avait été négociée en 2017 pour qu'on préserve les droits de ceux qui vont être les plus en difficulté, les plus précaires.
Merci Yves Verrier, le patron, le secrétaire général de Force Ouvrière ce matin. Faut-il interdire les licenciements dans les entreprises qui ont eu recours aux aides de l'État? Vous posez la question ce matin, en tout cas vous le revendiquez. Merci d'être venu nous voir ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
Il est 7h25, les titres de la presse dans un instant sur Radio Classique.